Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va commencer dans Ézéchiel au chapitre 22 et au verset 30. Depuis ce mercredi passé, parce que en fait j'ai commencé à partager cette parole jeudi, mais c'était déjà depuis mercredi très fort dans mon cœur. Nous allons parler du réveil et des choses que Dieu a commencé de faire et qu'il veut vraiment amener à la perfection. Donc on va commencer dans Ézéchiel 22 verset 30 et ensuite nous reprendrons ce texte de Jérémie. Je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave. Et nous avancerons dans la pensée que Dieu veut nous donner par rapport à toutes ces choses et qui se reflètent d'une façon particulière dans ce texte. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Il est écrit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas.
Ngo kandi naronde umuntu muri bo yosana uruzitiro agahagarara imbere yanje mu kirengero ahagarariye igihugu ngo noye kugihonya, ariko nta numwe nabonye.
Ce texte a un rapport direct avec la captivité d'Israël.
Et
bien sûr, ça ne nous concerne pas, vous en faites pas, Dieu ne va pas détruire le pays. Les hommes sont bien capables de s'en charger eux-mêmes. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de destruction. Et nous ne sommes pas sous cette alliance de l'Ancien Testament. Quand le peuple péchait, le roi péchait, tout le monde en subissait les conséquences.
Donc,
ce n'est pas dans ce sens-là que je veux appuyer ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il dit: je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux. Seigneur cherche parmi nous. Quand il dit un homme,
ce
n'est pas une personne unique. Il te cherche. Qui que tu sois, assis dans cet endroit, que tu sois adulte, que tu sois jeune ou enfant, le Seigneur te cherche. Il te cherche afin que tu sois entre ses mains. Un instrument du réveil. Il cherche un homme qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche en faveur de ses concitoyens, en faveur des hommes. Un homme qui construise, non pas un homme qui détruise. Vous savez, détruire, c'est très facile.
Il
y a différentes façons dont on peut détruire.
On
peut détruire par la critique.
Il
y a ce proverbe qui dit: la critique est facile, mais l'art est difficile. À chaque fois qu'on critique l'œuvre de Dieu, à chaque fois que l'on critique un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, on est en train de détruire. Amen. Amen.
Amen.
Donc Dieu cherche un homme qui construise. Si tu fais partie des personnes qui ont critiqué ou qui critiquent même encore maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'est pas trop tard de changer. Amen.
Amen.
Il n'est pas trop tard de changer, d'aller chez le tailleur ou à venir la mission, tu achètes un système éclair. On appelle ça une tirette ici. Chez nous, on appelle ça une fermeture éclair. Tu fais coudre ça sur ta bouche. Et tu te tais. Amen.
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 Bien sûr, c'est une plaisanterie. N'allez pas faire ça. J'ai peur. Dimanche prochain, je vais tous vous voir arriver avec des fermetures éclair sur la bouche. Ne faites pas ça. Amen. Ne faites pas cela. C'était juste une plaisanterie. Mais nous devons être réceptif. à ce que Dieu veut. Parce que la plupart des gens sont réceptifs à ce que eux ils veulent. À chaque fois que tu entends quelque chose qui va dans le sens que toi tu veux, dans ce que tu cherches, dans ce que tu désires, alors il y a une exaltation qui monte en toi. Mais il est temps d'avoir cette exaltation par rapport aux choses que Dieu veut, qui sont bien plus grandes et bien meilleures que toi, tu cherches un homme. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, on voit que très peu de personnes, personnes répondent à cet appel. Du temps de Moïse, il y a eu seulement 3 personnes sur plus d'un million de personnes qui étaient aussi bien du peuple juif que d'autres qui ont accompagné pour sortir d'Égypte. Du temps de Moïse, il y avait seulement 3 personnes. Bon, je vais dire 3.5. Il y avait Moïse, il y avait Josué et il y avait Caleb. Parce que Aaron, il n'a pas manqué de faire des gaffes et des sérieuses d'ailleurs. Amen. C'est pour ça que je dis une demi-personne pour Aaron. Il avait trouvé seulement ces 3-là. Et quand on regarde au travers de l'histoire du peuple d'Israël, c'était une personne, voire 2 personnes, mais rarement plus. Et quand on regarde l'histoire de l'Église par la suite, on voit que dans l'Église, il y a des temps de réveil, et dans l'Église, il y a des temps de ténèbres. Il y a eu des époques où dans l'Église, l'Église était devenue tellement traditionnelle qu'il n'y avait plus aucune vie. C'est seulement au début du XXe siècle qu'on a découvert le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, la louange et l'adoration, parce que pendant des centaines d'années, ces choses n'existaient même plus. Et je dois vous dire une chose, c'est que le réveil, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi ? Non pas parce que Dieu ne veut pas que nous soyons réveillés, ça il le veut. Mais Dieu n'a jamais prévu qu'on s'endorme. Amen. C'est pour ça que le réveil n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que après la Pentecôte, l'Église grandisse, se répande sur toute la surface de la terre et devienne de plus en plus grande et de plus en plus puissante. Parce que la vision que Dieu a, et on doit comprendre ce que Dieu a comme vision. Amen. Parce que nous, nous savons la vision que nous avons et ce n'est pas forcément les meilleures visions, je vous assure. Nous devons comprendre la vision que Dieu a par rapport aux hommes, par rapport à l'humanité. Dieu veut commencer quelque chose de particulier au travers de ta vie. Et il veut le continuer au travers de tes enfants. Parce que tes enfants iront plus loin que toi. Si tu les éduques dans le Seigneur, bien sûr. Si tu les laisses courir dans la rue comme tout le monde fait, ils risquent de devenir des voyous comme les autres enfants. Amen. La vision de Dieu, c'est de commencer avec un homme qui va marcher avec lui. Cet homme va avoir une famille, des enfants qui n'auront pas connu le monde comme vous et moi, nous l'avons connu. Pourquoi ? Parce que nous venons tous de familles, ou la plupart d'entre nous, de familles inconverties. Et quelque part, nous avons été des victimes de certaines choses. Quand tu transmets à tes enfants ce que tu as reçu du Seigneur comme étant le plus grand de tous les trésors. Franchement, je sens dans mon esprit de vous dire ça ce matin. Changez vos priorités par rapport à vos enfants. Changez vos priorités. Que vous ayez ce désir que vos enfants fassent des études. Des études à l'étranger, par exemple, ou même des études ici. C'est une bonne chose. Que vous ayez la vision que vos enfants se marient et s'établissent quelque part, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que vos fils et vos filles deviennent devant lui des flammes de feu et des serviteurs, des servantes qui n'auront pas expérimenté les choses du monde comme vous et moi l'avons expérimenté, mais qui auront connu Dieu dès leur enfance, dès leur jeunesse, qui auront grandi, qui se seront développés, qui auront vécu dans l'équilibre et non pas dans le déséquilibre, qui vont devenir une génération forte, une génération puissante dans le Seigneur, et qui vont prendre la relève pour faire mieux que vous et moi. Et que cette vision soit transmise dans vos enfants qui eux-mêmes en grandissant se marieront, auront des enfants qui feront mieux qu'eux-mêmes, qui en fait auront encore des enfants et des enfants et des enfants qui feront mieux. Et c'est un phénomène de pyramides renversées. Vous savez, souvent on parle des pyramides comme ça. Moi je parle d'une pyramide comme ça. Ça commence avec un petit groupe et ça s'étend et ça se développe. C'est comme ça que Dieu veut les choses. Mais avant qu'on puisse en arriver là, Dieu cherche un homme, un homme qui construise, non pas un homme qui détruise. Parce que vous savez, détruire, c'est tellement facile. C'est tellement facile de détruire. Il suffit de donner un coup de pied dans la construction à un endroit précis et la construction s'effondre. Soyons des personnes qui construisent avec Dieu. Amen. Qui construisent avec la pensée de Dieu. Qui construisent avec le cœur de Dieu. Parce que vouloir construire, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une chose suffisante. Beaucoup de personnes construisent selon leurs ambitions personnelles. Ils veulent être connus. Ils veulent être vus. Mais rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Que le plus grand, c'est celui qui se fait le plus petit. Que le plus grand, ce n'est pas celui qui est le plus visible. Le plus grand, c'est celui qui donne sa vie. Et quand on parle de donner sa vie, cela veut dire donner son temps, donner son énergie, donner ses talents, donner ses finances pour construire l'œuvre et le royaume de Dieu. Et Dieu dit dans ce texte que nous venons de lire, à l'époque où cela a été écrit, je cherche un homme, mais je n'en trouve pas. Je cherche un homme, mais je n'en trouve pas. Est-ce que nous pouvons être un tant soit peu reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous? Nous qui ne méritions rien. La seule chose que nous méritions, c'était l'enfer. Nous ne méritions rien. Ni la grâce, ni la compassion, ni la miséricorde de Dieu. Parce que là où nous étions et ce dans quoi nous vivions, c'est nous pour une plus grande partie qui l'avons mis en place de la mauvaise façon. Et sommes-nous capables d'être reconnaissants et de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Pas seulement le chanter. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus. Ça, ce sont des belles paroles. Pas seulement le vivre, mais le faire. Le faire sans tapage, sans orgueil, sans esprit de conflit et de dispute. Jésus a dit, c'est dans le psaume 40, c'est une parole prophétique. Me voici, ô Dieu. On va lire ce verset. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ta loi est dans mon cœur. Verset 9, psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
Ngumpimbawe no gukora ivyo ugomba mana yanje mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje namamaje ubutumwa bwiza bwo kugororoka ishengero ryinshi sinzobuza iminwa yanje uhoraho urabizi sinyegeza ukugororoka kwawe mu mutima wanje mvuga agakiza kawe ninge nuruwo kwizigirwa imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha ishengero ryinshi nawe ntunyime ukugira neza kwawe ewe uhoraho imbabazi zawe n'ukuri kwawe bize vyame binzigama.
Est-ce que cela peut être ton cœur?
Pas
seulement ce matin quand on est à l'église.
Mais
quand tu sors d'ici.
Ariko nuwa sohoka hano.
Me voici, je veux faire ta volonté.
Ati ngomba gukora ubugombe bwawe.
Me voici, c'est au verset 8.
Ku murongo w'umunani.
Alors je dis, me voici, je viens.
Ngo ndaje.
Me voici, je viens.
Gondage.
Ça, c'est l'appel du Saint-Esprit.
C'est
l'appel du Saint-Esprit dans cette église. Est-ce que tu peux répondre?
Me
voici, je viens. Je veux faire ta
volonté.
Alors vous allez me dire, mais moi je ne sais pas faire grand chose.
Je ne
suis pas capable de grand chose.
À chaque
fois que je fais quelque chose, ça tourne mal.
Ou ça ne
tourne pas comme ça devrait tourner.
Je ne suis
pas qualifié. Alors je te dis gloire à Dieu.
Au moins
tu sais qui tu es.
Amen.
Au moins tu sais qui tu es. Et je vous dis bienvenue au club parce que moi aussi je suis comme ça. Je ne sais pas faire grand
chose.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu vas être avec celui qui sait faire toutes
choses. Il sait
faire toutes
choses.
Et il va te
montrer.
Est-ce que vous rendez compte de quelle façon cela donne de la valeur à nos
vies?
Tu essaies, tu te donnes du mal. Tu essaies comme ça de faire une chose et tu n'y arrives pas. Mais comme tu as dit à Dieu, me voici pour faire ta volonté. Alors il prend ta main. Et c'est lui qui le fait. C'est comme ça que ça fonctionne, frères et
sœurs. Ce
n'est pas autrement. C'est pour ça que nous n'avons pas d'orgueil à avoir.
Ni
de gloire à tirer de quoi que ce soit.
Oh,
j'ai parlé à 10 personnes aujourd'hui.
Elles
ont reçu le Seigneur. Je suis un grand
évangéliste. Tu es
un grand rien du tout. Amen. Dieu seul est grand.
Rends-lui
grâce. Parce que le Saint-Esprit a convaincu ces personnes au travers de ta
bouche.
Non pas au travers de tes discours.
Vous savez, il
n'y a rien de plus fatigant que des discours.
Quand
ils sont vides de puissance. Quand ils sont vides d'onction. J'ai prié pour des personnes. Il y en a 3 qui ont été guéris. J'ai l'onction. Tu n'as rien du tout. Le propriétaire de l'onction, c'est le Seigneur. Et quand il la déverse, ce n'est pas pour que tu puisses te gonfler. C'est parce qu'il aime les gens pour qui tu pries. Et qu'il veut qu'ils soient guéris. C'est la seule chose, je vous assure. Ne pense pas, oh moi, je serai le prochain
Bénihin.
Ou le prochain je ne sais qui. Parce que quand on a ce genre d'attitude devant Dieu,
je
vous assure que ça n'a aucune valeur. Ça ne glorifie pas Jésus.
Le
Seigneur dit, je cherche un homme
qui
soit capable de laisser ses intérêts de côté.
Je
cherche un homme
qui
soit capable de tout me donner. Parce que vous savez, quand on donne
et
qu'après on reprend,
on
n'est pas vraiment utilisable.
Ou
quand on donne mais qu'on résiste en même temps.
Tout à l'heure,
je vous donnais cette image.
Elle
n'est pas capable de faire quelque chose.
Le
Seigneur vient
et
il lui prend la main et commence à le faire. Mais au bout d'un moment, elle se commence à se dire, non, moi je sais comment il faut faire. Et le Seigneur essaye. Et la personne résiste. Et le Seigneur essaye. Et la personne résiste. Et au bout d'un moment, Dieu lâche. C'est comme ça. C'est comme ça, je vous assure que c'est comme ça. Il ne lâche pas pour toujours. Il attend que tu reviennes à de bonnes dispositions. Il attend que tu t'humilies et que tu lui demandes pardon. Parce que tu n'as pas donné gloire à Dieu. Et que tu as préféré interférer avec ce que Dieu même voulait faire. Vous savez, sur cette terre, les gens qui sont les plus grands, les plus puissants dans le Seigneur, ce sont des personnes qui n'existent pas par elles-mêmes, qui n'existent pas pour elles-mêmes, qui ne marchent jamais dans leur volonté, qui ont un cœur soumis, un cœur obéissant.
Le
Seigneur dit, fais ça. Et il fait ça, sans discuter. On voit cet exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, l'histoire de Philippe. Philippe était bien tranquille chez lui. Et le Seigneur lui dit, va sur le chemin de Gaza. Le chemin qui est désert. Et Philippe aurait pu dire, mais qu'est-ce que je vais bien faire là-bas? Si c'est désert, je n'ai pas besoin d'y aller. Il aurait pu penser, réfléchir.
Ou
il aurait pu dire, oh Seigneur, tu vois, je suis fatigué là. Hein. Toute la semaine, on a fait une croisade d'évangélisation. Aujourd'hui, ça se trouve être mon jour de congé. Alors, envoie quelqu'un d'autre. Philippe a obéi. Et c'est comme ça que l'intendant de la reine d'Éthiopie a été sauvé. Si nous voulons être ces hommes, que Dieu cherche, laisse ta vie. Laisse tes intérêts. Laisse des fois tes empêchements. Parce que des empêchements, tout le monde en a de temps en temps. Mais laisse ça de côté. Et dis, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. On va revenir dans notre texte de Jérémie. Quelque chose que j'ai commencé jeudi. Jérémie au chapitre 1. Là encore, Dieu cherchait un homme pour un temps spécial. Et je vous assure que ce n'était pas un temps facile. Parce que Jérémie se trouve être le dernier prophète avant que le peuple soit déporté en captivité. Jérémie chapitre 1, on va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressé en ces mots, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu attaches et que tu abattes. » Pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Il répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Kumurongo wa kane ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti narakubumba munda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga maze ndavuga niyo erega mwamuhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto ariko uhoraho arambarira ati ntacuvuga ngo ndacari muto kuko nzogutuma ko wese ari uzoja ko kandi cyo nzokubarira cyose akaba ari cyukiye kuvuga ntuzugira ubwoba kubgabo kuko nzoba ndi kumwe nawe Nkurokore ni jewe uhoraho mbivuze maze uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa uhora arambarira atehenshiza amajambo yanje mu kanwa kawe raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bonu kurandura no gusangangura guhonya no gukomvomvora bonu kubaka no guteragira maze ijambo ry'uhoraho rinza ko rirambaza atubonye iki ga Yeremiya ndavuga nti mbonye ishami ry'umurinzi maze uhora haranyishura ati witegereze neza kuko ndindi ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse
Dieu a envoyé Jérémie dans un temps bien particulier
Imana yarungitse Yeremiya mu gihe gikwiriye
c'est le temps où la déportation va avoir lieu
nico gihe cyo gutwara
umugabano cyagiye gishyirwe
ugutemba kwa Yerusalemu
le peuple d'Israël part en captivité
ubwoko bw'Israël burajanwa nk'inyagano
et quand Dieu a envoyé Jérémie
Imana irungitse Yeremiya
si vous préférez c'était le prophète de la dernière chance
yari umuvugishwa wa nyuma
le prophète de la dernière chance
yari uvugishwa n'Imana wa
nyuma soit vous changez
murahinduka
soit vous vous repentez
canke murihana
soit vous irez en captivité
canke muzotwagwa nk'inyagano
et Jérémie c'était un homme pieux
Yeremiya yari umuntu atunganye
un homme qui était consacré à Dieu
yari umuntu yari yitangiye imbere y'Imana
le prophète des déclarations désagréables
yari umuvugishwa n'Imana yatura amajambo badashima abantu
parce que vous savez c'est très facile de dire
biroroshe kuvuga
oh Jésus t'aime
ngo Yesu aragukunda
de dire Jésus est si doux si gentil
Yesu ngo agira neza
ne t'inquiète pas
ngo ntutinye
tout ira bien
byose bizogenda neza
ça c'est facile à dire
ivyo biroroshe kuvuga
amen
amen
quand on dit des choses comme ça tout le monde applaudit
uvuze ibintu nk'ivyo bose bakoma mashi
Mais quand il faut dire des choses désagréables.
Ari kutegeza kuvuga ibintu bidahimba.
Non pas parce qu'elles soient désagréables, parce qu'elles ne sont pas en réalité.
Atari ko ari bibibishe ni bibishe.
Elles sont justes, elles sont vraies, elles sont selon le cœur de Dieu.
Ari ko ni by'ukuri bihwanye n'umutima w'Imana.
Elles confrontent l'homme avec lui-même.
Kandi bihuza umuntu n'ivyiwe akibona.
Et elles le poussent soit à changer.
Umuntu abasunikwe guhinduka.
Soit à partir.
Canke kugenda.
Ça devient une autre chose.
Ivyo bicika ibindi.
Amen. Et Jérémie a été persécuté.
Yeremiya yarahamwe.
Il a été jeté en prison.
Yaratawe mu mvuto.
Il a même été jeté dans une citerne.
Yaratawe mu cyobo.
Et j'imagine que le fond de la citerne ça devait pas être formidable.
Muri cyo cyobo ndazi ko hatarahanwe.
Citerne c'est un réservoir d'eau.
Nahani hari huzuye ibizi.
Et quand la citerne se vide,
kimaze kugaragara cyo.
Qu'est-ce qui reste au fond de la boue de la vase?
Mose asigaramwe ivyondo.
Vous savez ces petits verres là.
Cyane twa koko
qu'on trouve dans les en ce moment dans certains robinets vous voyez de quoi je parle
utu nusanga mu marobina mwamwe
yabaye c'est hiver des sangsues
ugasanga harimo
toutes sortes de bestioles vraiment très désagréables
udukoko twose twubwoko bwose dushisha
et Jérémie est passé par là
Yeremiya yaciye
parce qu'il a choisi
kuko yahisemo
d'obéir à Dieu
kuba Imana
il a choisi
yahisemo
de dire ce que Dieu voulait
kuvuga icimana yagomba
kuvuga malheureusement
Ça
n'a pas amené un changement dans le peuple
d'Israël.
Et nous sommes aujourd'hui dans un temps où Dieu parle
parce
qu'il veut amener le changement.
Pourquoi ?
Parce qu'il veut amener au travers de cette église un puissant réveil. Mais ce réveil ne pourra se manifester que par le changement. Amen. Un peuple saint un peuple irrépréhensible un peuple juste un peuple droit un peuple consacré un peuple qui marche avec Dieu un peuple qui en a fini une bonne fois pour toutes avec le péché c'est ça ce que Dieu veut produire dans la vie de chaque personne ici c'est ce qu'il veut produire et si vous écoutez cette parole si vous la recevez pour la mettre en pratique si vous la recevez pour lui permettre de changer complètement vos vies alors vous verrez le réveil mais si vous refusez cette parole ce sont vos enfants qui verront le réveil et je vous assure que ce n'est pas moi qui suis en train de dire ces choses je ne suis ni fâchée ni en colère ni amère ni aigrie vous savez parfois quand on est un peu aigri on dit des choses désagréables mais ce n'est pas le cas. Akenshi umuntu atamerewe neza avuga amajambo atari meza ariko siko biri. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nichimana yashize ku mutima wanjye. Regardons un peu l'appel et la vie de Jérémie.
Turabe uguhamagarwa n'ubuzima bwa Jérémie.
D'abord, il n'était pas prophète à l'époque, il était un des sacrificateurs.
Yari umwe mu baherezi cyo
gihe. À la fin du verset 1, un des sacrificateurs d'Anatote.
Ngo yari umwe mu baherezi bo muri Anatote.
Et Anatote, c'était une ville vraiment illustrement inconnue en Israël.
Anatote karagasagara katazwi muri Israël.
Un petit endroit qui n'intéressait certainement pas grand monde.
Akantu usanga abantu batari bitwararitse.
Comme peut-être entre nous soit dit.
Nkuko hagati yacu.
Bujumbura c'est une ville qui n'est pas vraiment très connue dans le monde.
Kuvuga ngo Bujumbura ni igisagara kitazwi
muri isi. New York, tout le monde dit ah oui, New York on a entendu parler.
Tuvuze ngo New York abantu bose bavuga ati
on dit Paris, oui tout le monde a entendu parler.
Uvuze Paris bavuga ati aho twarahumvise.
Oui tout le monde connaît.
Tuvuze Londres aho twarahumvise.
Et si on dit Bujumbura?
Tuvuze ngo Bujumbura.
Là on va trouver des personnes qui connaissent comme vous et moi par exemple.
Aho barasanga mwabantu nka mwebwe nanje
tuhanze. Et si vous allez par exemple en Australie interroger quelqu'un à propos de Bujumbura, il va dire qu'est-ce que c'est?
Ugiye muri Australia ukabaza umuntu ngo Bujumbura ni he ubwo
c'est normal. Amen. Donc l'appel de Dieu sur Jérémie. Uguhamagara kw'Imana hamagara. Il lui a dit avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Ngo ntarakumbumira mu nda.
Je te connaissais avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré.
Ngo kandi utarava muri yo nari narabakurobanuje.
Et je t'avais établi prophète des nations.
Nari nagushize ko uvugishwa n'Imana mu mahanga.
Avant même.
Imbere.
Dieu est en train de parler à Jérémie alors que à ce moment-là Jérémie est déjà un adulte.
Imana yari kuvugana na Yeremiya
cyo gukadama. Il est un sacrificateur à Anatote.
Yari umuherezi ya Anatote.
Et Dieu lui parle.
Imana ivugana nawe.
Par rapport à l'appel qu'il a mis sur sa vie.
Kubijyanye n'umuhamagaro yashize ku buzima bwe.
Avant la fondation du monde.
Imbere yuko isi iremwa.
Vous savez, nous ne sommes pas rien ni n'importe qui.
Yiturabo ari bo bose.
Dieu te connaît par ton nom.
Imana ikuzi mu izina.
Toi personnellement.
Wewe ubwawe.
Et il t'a fait naître dans ce temps
kandi yakuvukije
muri kino dans cette génération
muri runo rungano
pour que tu puisses accomplir sa volonté
kugira ngo ushitse ubugombe bwiwe
qui n'est pas une petite volonté
atara ubugombe buto
quelque chose d'immense
ariki kintu kinini
quelque chose d'énorme
ikintu kirengeye
quelque chose qui ne s'est jamais vu
ikintu kitaraboneka
quelque chose dont on n'a jamais entendu parler
ikintu batarumva kivugwa.
Voilà pourquoi nous sommes ici.
Icyo gituma turi hano.
Et avant même
imbere yuko
que tu sois né
unavuka.
Dieu te connaissait.
Imana yari ikuzi.
Et il t'avait consacré.
Kandi yari yararobanuje.
L'apôtre Paul dit la même chose dans l'épître aux Galates.
Paul avuga ibyo nyine
muri Galatiya. Ce sont des choses que nous avons vues précédemment, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps.
Nibintu twa twarabonye sinabite bako.
Galates chapitre 1 verset 15.
Abigalatiya gice ca mbere murongo wa 15.
Il est dit.
Haravuga ngo.
Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que j'annonce parmi les païens, que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang.
Ngo ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikampamagara ku bw'ubuntu bwayo guhishura umutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiza mu banyamahanga ako kanya singishize inama n'abafise iminwa inyama n'amaraso kandi sinaduzi Yerusalemu.
Amen.
Amen.
Quand on voit l'apôtre Paul,
tubonye Paulo,
c'est la même chose.
Niko biri.
Dieu l'avait consacré.
Imana yari yaramurobanuye.
Dieu avait prévu quelque chose.
Imana hari cyari yarateguye.
Et il marchait dans une direction qui était complètement différente.
Yari kagendera mu nzira itandukanye.
Pendant plusieurs années.
Imyaka myinshi.
Il était pharisien.
Yari umufarisayo.
Il était persécuteur de l'église.
Yahamishengero.
Mais quand il a plu à Dieu,
ariko igihe byahimbara Imana,
quand ça a été le temps pour Dieu de révéler son fils en lui.
Kugira ngo ihishe umwana wayo muri
lui. Tout a changé.
Byose byarahindutse.
Daniel chapitre 2, on va pas le lire mais verset 20 à 22 nous dit Dieu est le maître du temps et des circonstances.
Daniel gice cha kabiri mirongo iravuga ngo Imana nigaba ibihe.
Il est le maître du temps.
Et
il est capable de changer n'importe quelle circonstance.
Kandi ishobora guhindura ikintu cyose.
Il est capable de bouleverser ta vie.
Vous
savez, de temps en temps, il y a parfois dans le monde de grands tremblements de terre, des volcans et différentes choses comme cela. Et c'est dans cette puissance-là que Dieu est capable de bouleverser ta vie. Non pas à cause de toi-même, mais parce que Dieu veut amener le salut. Dieu veut amener le réveil. Même si nous n'aurions dû jamais dormir, il se trouve que c'est arrivé. Amen. Mais Dieu, dans sa grâce, veut amener le réveil. Veut faire exploser sa puissance dans cet endroit même. Dieu veut manifester. Parce que jusque-là, je vous garantis qu'on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose en comparaison de ce que Dieu veut vraiment faire. Nous avons vu des choses, certes, mais tellement faibles et tellement petites par rapport à ce que Dieu a vraiment prévu. Donc Dieu appelle Jérémie. Et Jérémie, il va être pris d'un mouvement de panique. C'est normal. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, les choses se passent souvent de la même façon. Tant que tu dis à Dieu, moi je suis là, moi je suis prêt, moi je suis capable, Seigneur, qu'est-ce que t'attends? Ça, c'est typique de la personne qui n'est pas prête. Parce que quand tu te comportes de cette manière-là, je gagnerai le monde pour toi, j'irai jusqu'au bout, je franchirai des mers, je gravirai des montagnes, je prêcherai la bonne parole, je guérirai les malades, je ressusciterai les morts. Quand on est dans cette attitude, je vous assure qu'on est dans la chair, parce qu'on est dans notre propre capacité, on est dans notre propre présomption, on pense que l'on peut faire ces choses. Et régulièrement, quand Dieu appelle des hommes, les hommes qui ont fait les plus grandes choses, les plus puissantes, ils ont toujours un mouvement de panique. Seigneur, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Va chercher quelqu'un d'autre. On voit ça chez Gédéon. Gédéon, il a eu peur. Envoie quelqu'un d'autre. On a vu ça chez Moïse. Je ne suis pas capable de parler. Envoie quelqu'un d'autre. Et on voit ça chez Jérémie aussi. Je ne suis pas capable. Alors, quand on sait qu'on n'est pas capable, ça veut dire qu'on est prêt. Parce que c'est là qu'on ne marchera plus dans notre capacité, mais dans celle que Dieu va communiquer. Jour après jour, instant après instant. Regardons un peu ce que Jérémie a dit. Verset 6. Je répondis, Seigneur, ah Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant.
Maze ndavuga niyo erega mwami uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri moto.
Je ne sais pas parler.
Sinzi kuvuga.
Ça, c'est un argument.
Icyo ni ikireguzo.
Je dois vous dire une chose, ça a été mon premier argument à moi personnellement. Quand le Seigneur m'a appelé, je suis allée avec le pasteur Olivier dans une école biblique. Et ensuite, après quelques temps, on a commencé le ministère.
Ici,
le pasteur Olivier a commencé l'école biblique.
Oh
là, je dois vous dire tous mes secrets là. Et je devais commencer avec lui. Et ça me terrorisait tellement. Que la veille, ou deux jours avant que je commence à enseigner, les enfants sont trop petits, vraiment, c'est pas possible.
Hein.
J'avais un enfant qui avait 3 mois, un autre qui avait un an de plus, je ne peux pas. J'avais une angoisse tellement grande. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas.
Je ne pouvais pas du tout.
Et puis, on est retourné en France pendant quelques temps.
Et
le Seigneur nous a fait revenir ici après une année, environ 15 mois. Et là, la question se reposait à nouveau. Mais j'avais fait une expérience personnelle, le Seigneur avait touché ma vie d'une façon spéciale. Quand on était dans une conférence pour serviteurs de Dieu, vraiment le Seigneur m'avait touché. Donc j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à prêcher. Mais je vous assure que pendant plusieurs années, je n'avais qu'une crainte. Une crainte. C'est après 5 minutes, j'ai tout dit. Et je regarde ma montre. Ça me faisait faire des cauchemars. Je regarde ma montre. J'ai tout dit. Qu'est-ce que je dis maintenant? Il y avait des cours d'enseignement de la parole de Dieu avec des syllabus. Alors c'est point par point, il faut enseigner point par point. Alors je me disais, mon Dieu, je dois enseigner pendant 10 heures ou 12 heures ce cours. Mais il y a très peu de points, comment je vais faire? Alors je faisais durer les points, je me disais, il faut que ça dure un peu plus. Je vais finir le cours en 3 heures. Et ça ne va pas aller. C'était vraiment une angoisse pour moi. Je ne sais pas quoi dire. Ce que j'ai à dire en 3 minutes, c'est fait. Je peux dire premièrement, deuxièmement, troisièmement, allez, au revoir tout le monde. C'était vraiment quelque chose de terrible. Je vous assure, ça m'est complètement passé. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué. Donc ne dis pas. Je ne sais pas quoi dire. D'ailleurs, mieux vaut ne pas savoir quoi dire, je vous assure, c'est mieux. Parce que quand tu sais quoi dire, c'est toi qui parles. Amen. Alors que quand tu ne sais pas quoi dire, là tu laisses l'occasion au Saint-Esprit de te montrer ce qu'il faut dire. Jérémie dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. C'est exactement ce que Moïse a dit. On va lire ensemble dans Exode. Exode chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu.
Ça,
c'est la première objection de Moïse quand Dieu l'envoie. Les gens qui sont là, ils ne vont pas me croire. Et ils vont dire, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Et ça, souvent, c'est une crainte qui est là. Dans la vie de ceux qui sont appelés à parler. Aujourd'hui, l'ambiance n'est pas très bonne.
Hein.
Ils ne vont pas m'écouter. Hein. Ils ne vont pas me croire. Oh, je vois là le frère là au quatrième. Je ne regarde personne. Le frère quatrième rangé, chemise jaune à droite là. Il me regarde tellement méchamment. Vous savez qu'il y a des prédicateurs, ils ont des angoisses pareilles. Alors, je me rappelle quand on était à l'école biblique, on nous disait quand on avait le cours sur la prédication, si tu as ce genre de peur, trouve une personne qui a un regard, un visage sympathique, qui écoute vraiment ce que tu... Vous savez, il y a des gens, ils font comme ça à chaque fois. Ça nous bénit, je vous assure vraiment ça. Tu regardes cette personne, et c'est à lui seul que tu prêches. Et si tu n'en trouves pas, je blague bien sûr, hein. Si tu n'en trouves pas, regarde au sommet de la tête des gens comme ça, tu ne vois pas leurs yeux. Et ça, c'était la peur. La peur de Moïse. Vous savez d'où vient la peur? Elle vient du diable. Amen.
Amen.
La peur ne vient pas de Dieu.
Est-ce
que vous pouvez imaginer un instant que Dieu ait peur d'une chose quelconque? Dieu n'a peur de rien. Il n'a peur de personne. Il n'a pas peur du diable. Il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur des hommes. Il n'a peur de rien. Il n'a pas peur que l'univers se casse la figure. Dieu n'a pas peur. La peur ne vient pas de lui. Mais obligatoirement, quand tu ressens un appel de Dieu sur ta vie, peut-être que ce que je vais dire, ce n'est pas vrai. Peut-être que ça ne vient pas vraiment de Dieu. Ou on ne va pas m'écouter. On ne m'aime pas vraiment, on ne me reconnaît pas. On ne va pas m'écouter, je ne peux pas le faire. Ça, c'est la première objection que Moïse a donnée à Dieu. Et Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas.
Et
il va lui montrer des signes. Le fait de jeter son bâton par terre, ça se transforme en serpent. Il saisit le serpent par la queue, ça redevient un bâton. Et aussi le fait, il met sa main dans son vêtement comme ça. Il la ressort, il y a de la lèpre. Il remonte, il le remet. Et il n'y a plus rien. Je vous signale qu'il n'y a pas de promesse de Dieu pour voir ce genre de signes. Amen. Nous, nous sommes nés de nouveau. Dimanche prochain, ne venez pas ici avec des bâtons. Amen. Deuxième objection de Moïse, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. »
Mose ngwarabere uhora ati mwame mbega ko nari mvuzi bikaba bitanangu ejo canke higa yejo canke ubu aho tuvuganiye je umusavye wawe kuko ntabangutse mu kuvuga canke ururimi.
Et là Dieu lui dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire.
Ngo uhoraho aramwishura ati ninde yaremye akanwa k'umuntu canke ninde atera uburagi canke ubupfamatwi ati genda uvuge uko nakubwiye.
Vous savez, la dernière chose que nous ayons à faire, c'est de argumenter avec Dieu.
Akaje cyo dukunze gukora no gutanga insiguro.
Si Dieu te dit vas-y,
Imana ikabwira ngo genda.
Qu'est-ce que tu réponds?
Mbega wishurike.
J'y vais.
Ngo ndagiye.
Amen. Il a commencé à argumenter. Je ne sais pas parler. Ma bouche est embarrassée.
Vous
savez, il y avait un homme qui s'appelait Smith Wigglesworth, un grand serviteur de Dieu, que Dieu a vraiment puissamment utilisé. Cet homme-là, c'était exactement la même chose. Il avait vraiment des problèmes d'élocution. C'est pas parce qu'il bégayait, mais c'était un homme qui n'était pas éduqué.
Et
franchement, il n'était pas du tout à l'aise pour parler. Et les gens de son époque témoignent, et je pense d'ailleurs que même c'est écrit dans certains de ses livres. Les trois ou quatre premières phrases de ses sermons, c'était lamentable. C'était nul. Mais à la cinquième phrase, il était connecté. Et quand il était connecté, la parole et la puissance de Dieu passaient au travers de sa bouche. Vous savez, la foi, ce n'est pas je fais le premier pas et tout de suite ça va aller. La foi, c'est parfois cela. Parfois c'est je fais le premier pas et je suis en train de tomber. Seigneur,
man,
j'ai fait le premier pas.
Il
faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Sinon je vais me ramasser par terre lamentablement.
Vous
connaissez cette histoire de l'aigle? Qui connaît l'histoire de l'aigle qui apprend à son petit à voler? Qui connaît cette histoire? Bon, je vois qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas. Quand l'aigle voit que son petit a suffisamment grandi, il veut lui apprendre à voler.
Mais
vous savez, les aigles, ce sont des oiseaux différents des autres.
Quand
ils volent, ils ne sont pas comme ça sur le sol et ne se mettent pas à battre des ailes comme ça jusqu'à temps qu'ils s'envolent. Ce n'est pas de cette façon-là que l'aigle vole. Quand l'aigle vole, d'abord il fait ses nids sur de hautes falaises, de hautes montagnes. Et quand il vole, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans le vide. Il déploie ses ailes et il se laisse porter par le courant d'air. Il peut battre des ailes un petit peu de temps en temps pour chercher un autre courant, mais en principe il ne le fait pas beaucoup. Alors, Alors le bébé aiglon, qui a suffisamment grandi, qui n'est pas encore adulte, il est temps d'apprendre à voler. Vous savez ce que sa mère fait? Vous savez, il y a des mères qui sont méchantes.
Hein.
Sa mère, elle le pousse.
Nina aragasunika.
Hors du nid. Elle arrive, alors le petit aiglon, il est tout content. Ah, c'est l'heure de manger. Il ouvre sa bouche. Il
n'y
a rien qui vient.
Il
sent juste sa mère qui lui fait.
Hey,
pourquoi tu me pousses comme ça?
Hey,
on arrive trop près du bord. Et tout à coup, sa mère a fait pouf. Et le petit aiglon, il est éjecté du nid. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Et tombe encore. Et sa mère le regarde. Tomber. C'est vrai. Et au bout d'un moment, elle se jette. Elle étend ses ailes. Elle passe sous son petit et elle le rattrape et elle vole avec lui. Je vous assure que ça doit leur faire une expérience unique aux aiglons. Parce que le petit, là, il a vu la mort en face.
Et
sa mère n'avait pas l'intention de le tuer. Elle est venue par en dessous, la porter. Et lui apprend à voler. Ça, c'est ce que ça soit pour nous tous. Une bonne leçon de foi. Fais ce que Dieu te demande. Commence. Même si tu bafouilles. Même si tu bégayes. Même si tu ne te sens pas à la hauteur. Si Dieu te le dit, fais-le. Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi quand tu fais ce qu'il te demande de faire.
Amen.
On va lire ensemble les versets 10, on retourne dans Jérémie.
Versets
7 à 10. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. D'ailleurs, pour en revenir un petit peu à Moïse, parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand il a continué à argumenter, parce que dans le texte précédent, il a continué à argumenter, Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. Pensez que Dieu ne se met jamais en colère. Pour Moïse, Dieu s'est mis en colère. Il lui a dit, puisque c'est comme ça, prends Aaron ton frère. Et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Je vous assure, nous n'avons pas besoin d'Aaron. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un Aaron qui parle à ta place. Qui fait une chose ou une autre à ta place. Ce n'est pas bon du tout. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas ces choses. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Ngo kuko uwo nzogutumako wese ari uzoja ko kandi ico nzokubarira cyose akaba ari cyukuye kuvuga ntuzugira ubwoba kubwabo kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore ni jewe uhoraho mbivuze maze uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa.
De la même façon que Dieu a dit à Gédéon,
vaillant
guerrier, va et délivre le peuple d'Israël. De la même façon, Dieu dit à Jérémie, tu iras auprès de qui je t'enverrai. De la même façon que Dieu te dit ce matin, tu feras ce que je te demanderai. Est-ce que vous savez que Dieu a confiance en nous? Il a confiance en nous. Il croit en nous. Il nous a mis sur cette terre parce que dans son cœur, il croit que nous allons lui écouter. que nous allons l'écouter. Il croit que nous allons lui obéir. Après cela, il y a une expérience très spéciale que Jérémie va faire. Dieu va toucher sa bouche. Amen.
Amen.
C'est là où l'onction commence à se manifester.
Quand
Dieu touche ta bouche,
on
va arrêter pour aujourd'hui et on reprendra la suite de ce passage, soit mercredi, soit jeudi. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse relire Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas.
Ngo kandi naronde umuntu muri bo yosana uruzitiro agahagarara imbere yo mu kirengero ahagarariye igihugu ngo noye kugihonya ariko nta numwe nabonye nico catumye mbarekurira ubushangashirwa bwanje nkabamarira umuriro mu burake bwanje ingeso zabo nazibushije ku mitwe ni ku mwami uhoraho agize.
Dieu cherche au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever, à se consacrer, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire la vérité. Amen.
Amen.
Qui n'ont pas peur de dire la vérité.
Sachez-le
qu'il y a une puissance
de
délivrance dans la vérité, alors qu'il y a une puissance d'emprisonnement et de destruction dans le mensonge. Dieu cherche un peuple qui se lève, qui se tienne pour la vérité, qui parle la parole de Dieu. Et si tu es cette personne, que tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu va mettre une onction spéciale sur ta vie. Parce que sans onction, tu ne pourras jamais faire ces choses. Jamais, jamais. Le tout n'est pas de répondre. Répondre, c'est bien. Mais répondre, ce n'est pas suffisant. Dieu ne veut pas que tes paroles soient vides de sens, ni vides de puissance. Mette une onction sur son église, afin que toute cette ville, que tout ce pays, et partout où il enverra les uns ou les autres, il y a un feu, il y a un feu du réveil qui brûle et qui transforme, qui change. Amen.
Amen.
On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes vraiment. Nous voulons aussi répondre à ton amour, Seigneur. Nous voulons te dire, nous voici. Nous venons dans ce temps pour être ces personnes qui se tiennent sur la brèche, ces personnes qui veulent construire, qui ne veulent pas détruire, ces personnes consacrées, mises à part, afin d'annoncer le réveil qui vient, de l'annoncer dans le sens de l'amener, de la porter. Ce monde qui a tellement besoin de voir, de voir ta gloire, de voir ta manifestation, de voir ton amour, de voir ta puissance.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.